Bien content d'être là ce matin, comme disait Pasteur Jean-Pierre, toujours content de partager quelque chose que j'ai sur mon cœur, comme vous pourriez si bien le faire. Hein. Ce matin, moi, c'est moi qui est là, c'est mon tour, mais les recherches que je fais, je vous en fais sûrement autant et peut-être même plus. Certaines personnes sont plus fouilleux de Bible que d'autres, si on peut dire ça comme ça, mais je suis content de ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Puis j'aimerais ça qu'on prie avant. Excusez. Seigneur, je te remercie ce matin pour ce temps qu'on a eu jusqu'à maintenant. Seigneur, ce temps de louange, Seigneur Jésus, ces partages entre frères et sœurs, ces temps de prière, Seigneur Jésus. Tu es vraiment au milieu de nous, tu es vraiment là, Seigneur, puis c'est ça qui est important, Seigneur Jésus. On est avec toi, Seigneur. Puis ce matin, on te demande aussi de bénir ce temps de partage-là que je vais amener, Seigneur, que ça peut être une semence, ça peut être quelque chose qui rejoint, Seigneur, chacune des personnes qui sont ici, de différentes façons, Seigneur, mais juste qu'on puisse comprendre ce que tu nous apprends ce matin, Seigneur, parce que moi, je découvre des choses aussi en le partageant, Seigneur, puis qu'on puisse tout en découvrir ensemble, Seigneur Jésus, de la richesse de ta parole, Seigneur Jésus. Amen. Juste avant de commencer, ce matin, Isabelle a pris le chant « Je ne suis plus esclave ». Le contexte de ce chant-là, OK, on pense esclave, on pense de des habitudes et des choses comme ça, mais ça dit « Je n'ai plus peur, je ne suis plus esclave ». Puis c'est dans le sens d'avoir la peur de s'approcher du trône de Dieu. Autrement dit, on parle de cette peur-là, oui, d'une peur d'avancer, mais on parle d'une peur de vraiment d'aller dans la présence de Dieu librement. Je suis plus esclave de ce qui me travaille, de ce qui m'empêche d'avancer. C'est comme « go, vas-y d'un bras de ton père, je ne suis plus esclave ». Autrement dit, il y a rien qui peut m'embêter, qui peut me faire trébucher d'aller dans la présence de mon père, parce que mon père, il m'attend. Ça dit après ça que je suis dans ses bras, je suis là. Et quand vous chantez ce chant-là, je suis libre. La liberté de courir dans les bras de notre Père. Peut-être pour certains, ça signifie quelque chose, pour d'autres moins. On a toutes des enfances différentes. Mais juste, on part du moment présent, on part de ce que Dieu fait dans nos vies. Il y a un Père qui nous attend de l'autre bord de la porte, là, je dirais au bout de l'allée, peu importe où ce que vous allez. Il y a notre Père céleste qui est là, qui nous attend. On n'a plus peur, on n'est plus esclaves du diable qui veut dire « Ah, mais toi, t'es-tu assez ça, puis t'es pas assez ça, puis... » Non, 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 il n'y a pas de pas assez. On est des enfants de Dieu. On a été sauvés par la grâce de Dieu. Et ça, c'est important. Ça, c'est la base. Ça, c'est... On est là, on est tous là. Autrement dit, on peut résumer ça un matin, on est juste des pécheurs sauvés par grâce. Mais on est plus que ça. Mais je veux dire, on part ça à la base. J'aimerais ça qu'on tourne dans Ézéchiel 34, versets 11 et 12. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je trouve ça le fun, parce que quand Isabelle a fait ce chant-là, je me disais, ça fait une belle introduction pour mon verset. Je me disais, comment je vais juste rentrer ça? Puis Dieu orchestre les affaires, hein? Ça, c'est vraiment... Alors, comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis. OK, ce matin, puis comme toutes les fois que je partage des choses, il y a des choses que je reviens avec, que je répète avec, puis... Mais juste, j'aimerais ça parler de... Du point de vue de la revue que Dieu fait avec nous. Si on pense revue, on va simplifier ça. Quand vous étiez jeune, vous étiez sur le bord de partir pour l'école, là, votre mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Ton manteau, y es-tu bien attaché? T'as-tu ton foulard? T'as-tu ta tuque? T'as-tu tes mitaines? Puis là, mais si vous étiez du genre à pas vouloir en emporter, ça faisait comme « Ah! » Moi, je mettrais pas ma tuque, là, je vois tous les cheveux de travers, puis je vois tout, tu sais. Hein? Peut-être plus pour les filles que pour les gars, ça dépend. Ou je vais arriver, je vais avoir les cheveux comme ça, ou ça va être tout tapé comme ça, puis quand c'est à la mode, les cheveux un peu plus gonflés. Mais dans notre attitude, c'est comme la différence, c'était pas la personne qui s'occupait de nous, la différence, c'était nous. Comment est-ce qu'on voyait ce que la personne voulait faire avec nous? OK, vous voyez ce que je m'en viens. C'est que dans le fond, Dieu, il s'occupe de ses brebis. Ça dit, comme un berger va passer ses brebis une après l'autre, il va les passer. Et pourquoi est-ce qu'il va les passer? Puis là, on va dire, ah, c'est parce qu'il va chercher voir si j'ai des péchés dans ma vie, si j'ai des mauvaises habitudes, si j'ai des... Puis on est comme ça. On est comme ça parce que, pour revenir à la chanson tantôt, on n'est plus esclave. On n'est plus ces affaires-là. Quand Dieu s'occupe de nous, et il s'occupe toujours de nous, il nous passe en revue. Ça va-tu bien aujourd'hui? C'est quoi sur quoi qu'on peut travailler? C'est quoi qui ne va pas bien? C'est quoi qui peut arriver? Comprenez-vous? Mais la mentalité humaine, puis que le diable aime bien mettre sur nos épaules, il cherche à te coincer quelque part. Hein? La mère qui disait à son fils qu'il ne voulait pas mettre sa tuque, puis qu'il revenait tous les jours, on sait bien, elle va checker encore un matin si j'ai pas mis ma tuque pour me dire, « Hey, t'as pas mis ta tuque? » C'est parce que si tu penses plus loin, pourquoi que ta mère a vu que tu mettes ta tuque? C'est parce que dehors, il fait froid, puis si tu mets ta tuque, tu vas être mieux. Mais sa pensée, c'est, « Ah, oh, es-tu tannante? Elle fait exprès. » Autrement dit, si ce matin-là, elle me laissait aller, puis qu'elle ne regardait pas si j'avais ma tuque ou pas, dans le fond, là, je suis sûr que les matins, là, c'est parce qu'elle a envie de me chialer, puis elle a envie de me dire que tu sais que je suis pas bon, puis que je ne m'habituerai jamais, puis que je suis pas capable de mettre ma tuque. Puis je vous dis ça, puis sûrement que vous avez d'autres images dans votre tête. Hein, des fois, nous autres, on est comme ça aussi. Il y a des choses dans la vie, puis on se dit, pourquoi est-ce que Dieu me revient avec ça? Pourquoi est-ce que c'est toujours de même? C'est parce que Dieu, il m'aime pas. Dieu, là, il essaye toujours de me coincer quelque part. Tu sais, essayez de penser différemment. Dieu, il nous aime. Puis j'aime répéter ça parce que c'est vrai. Puis c'est ce que la Bible nous enseigne, c'est ce que l'histoire de la parole de Dieu nous enseigne. Dieu nous aime, il nous a aimés, il va nous aimer, il va nous aimer toujours. C'est le « Je suis » qui nous aime, c'est l'amour incarné. Mais ce Dieu-là, tout ce qu'il va faire pour nous, il va le faire par amour. Il va inspecter ses brebis. Il va les recueillir de tous les lieux. Il va les prendre. Hein. Vous achetez quelque chose dans une place de choses usagées, puis vous allez l'inspecter, vous allez la regarder parce que c'est ça que vous voulez. Dans le fond, vous voulez être sûr. Mais Dieu, lui, quand il nous inspecte, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il veut le meilleur pour nous autres. Puis ce qu'il vérifie, c'est que dans le fond, il vérifie s'il en manque. Dans les différents versets de la Bible qui parlent de quand Dieu passe en revue les armées qui vont combattre, des choses comme ça, c'est parce que là, il veut l'établir. Dans le fond, il veut établir, bon, ben, tu sais, tu regardes ton monde, tu es dans une équipe de hockey, tu dis, bon, ben, qui va être mon capitaine, qui va être mon assistant, qui va être, bon, toi, tu vas être ailier, toi, tu vas être défenseur. Il y en a peut-être, c'est du chinois, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'il y a des places stratégiques où ce que les gens peuvent être dans une équipe. Mais c'est le capitaine qui les voit. Et pour ça, il faut qu'il inspecte ces personnes. Ce n'est pas parce qu'ils sont mieux, qu'ils ne sont pas mieux. C'est parce qu'ils voient leur talent, ils voient ce qu'ils sont. Puis Dieu fait la même chose. Quand Dieu nous passe en revue, c'est comme, il est content. Il voit son enfant, il voit telle personne, il est content. Puis il dit, wow, lui là, ça va être la bonne personne pour ça. Lui là, ça va être la bonne personne pour ça. Dites-vous que si Dieu vous prend la peine de vous montrer quelque chose, Dieu prend la peine de s'occuper de vous, c'est parce que vous avez une grande valeur. Hein? Souvent, des fois, on pense à des jeunes qui disent, « Ah, moi, ma mère était toujours sur mon dos, puis là, c'est comme, je peux pas faire telle affaire. » Puis tu as un autre enfant qui va jaser avec, puis qui va dire, « Ben moi, mes parents, ils se foutaient littéralement de ce que je faisais. » Puis ils vont dire, « Ben, t'es chanceux, toi. Ils s'occupaient pas de toi. » Ouais, c'est parce que si tu écoutes ce que tu viens de dire, là, il ne s'occupait pas de moi. Dieu s'occupe de nous. Dieu veut le meilleur pour nous. Dieu nous aime. Amen. Il veut le meilleur. Ses brebis, il veut établir des chefs. Il le fait pour notre sécurité. Si une brebis a une blessure, puis elle peut la courir dans le champ, puis à un moment donné, ben, elle risque de se tenir à l'écart parce qu'elle est blessée. Ben, il veut le savoir, il veut s'en occuper, il veut la nourrir, il veut la préparer, et bien sûr, nous préparer devant l'adversité. Dans notre thème, on parle d'être vainqueur. Je veux dire, avant d'être vainqueur, il faut que quand tu pars au combat, il faut que tu aies ce qu'il faut, hein, parce que quelqu'un qui part S'il en manque des bouts, puis s'il si, te manque un bout de ton armure, ou s'il y a tel point, telle chose, ben s'il n'y a personne qui va au combat avec une blessure, avec, tu pars, je vais partir avec mon épée, mais je n'amènerai pas mon bouclier. OK? C'est parce qu'à un moment donné, quand l'autre va vouloir frapper, tu vas rien que ton épée pour te défendre, tandis que si tu as ton bouclier, ben, tu as ton bouclier pour empêcher, puis tu as l'épée pour frapper. Mais, tu sais, le soldat qui part, puis OK, les gars, habillez-vous comme vous voulez. Il y a un moment donné qui part avec une chaussure, puis pas l'autre chaussure. Ouais, c'est parce qu'on a 20 km à marcher. C'est parce qu'avec une chaussure, 20 km, ça va être tanné un petit peu. Vous comprenez? Que Dieu, il veut le meilleur. Dieu passe en revue. Fait que d'être sous la loupe de Dieu, on dirait que ce n'est pas le fun, mais non, c'est le fun. Ça devrait être le fun. Et on devrait le voir comme la raison pour laquelle il le fait parce qu'il nous aime. Puis, ce matin, je prie que Dieu change nos mentalités de notre passé. On a tous des passés différents, on a tous des choses différentes. Il y a des gens qui, heureusement pour eux autres, ont plus de facilité à concevoir une pensée de « bon ben, Dieu peut prendre soin de moi parce qu'il y a déjà des gens qui ont pris soin de moi ». Il y en a d'autres qui vont dire « ben moi, ça dépendait de comment si j'étais faim ou si j'étais pas faim, tu sais ». Mais Dieu, il n'y a pas si on est faim ou si on n'est pas faim. Dieu est concerné par nous. Puis s'il y en a qui se disent « ben moi, je sais pas de quoi tu parles », c'est pas une notion que je connais. Mais aujourd'hui, je prie que Dieu la change dans vos vies, que vous puissiez la voir d'une autre façon. Et on a les frères et les sœurs, on a l'Église qui est ici aussi, qui est là pour justement aider, s'aider ensemble à changer nos mentalités. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, vous étiez seul dans la vie, vous connaissez des gens qui sont seuls dans la vie, mais vous êtes la personne qui peut être la main de Dieu. Je me souviens, quand j'ai travaillé longtemps avec les enfants, on disait, ben si les enfants peuvent comprendre à quel point on les aime, mais je veux dire, à un moment donné, ils peuvent comprendre que Dieu les aime. Parce qu'il y a un être humain qui est... C'est ça. Amen. OK. Excusez. Je vais remettre mes lunettes avant de brailler dedans. Tu sais, ça fait des gouttes qui vont tomber dedans. OK. Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Non, j'ai réussi, ça n'a pas tombé dedans. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Fait que Dieu veut nous former. Dieu nous passe en revue. Dieu veut nous former. Et pourquoi Dieu veut nous former, mais ma question à moi, c'était debout ou ne pas être debout? Être ou ne pas être, debout ou ne pas être debout. Parce que dans le fond, la parole de Dieu nous enseigne d'être debout. Dans Psaume 20, verset 9, « Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et nous restons debout. Nous autres, on tient debout. Il faut être debout et tenir ferme. » On va aller dans 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Dans le fond, on devrait être debout. Puis quand on pense à des versets comme l'orgueil précède la chute, que celui qui veut, tu sais, être debout, être le meilleur, il risque de tomber. Mais pourtant, Dieu nous enseigne d'être debout. La dernière fois que j'ai partagé qu'il fallait marcher la tête haute parce qu'on était des enfants de Dieu, des enfants du roi. Mais il ne faut pas marcher la tête trop haute parce qu'il faut voir où est-ce qu'on s'en va. Hein? Il faut marcher trop le nez en l'air. Mais juste marcher debout. Mais comment on peut marcher debout et comment on peut sans tomber? Parce que c'est important. OK, je vais... Je m'étais dit que je prendrais un exemple ce matin. J'étais un gars terre à terre, hein? Ça fait que vous allez comprendre. Tiens, mettre là. Alors, tout le monde voit mon bain ici. OK, on parle de fondement, de base. OK? Un banc, comme celui-ci, qui est, je dirais, pas très... Oui, qui est quand même... Il y a quand même quatre pattes, mais comme vous pouvez voir, il y a quand même une stabilité réduite, n'est-ce pas? Fait que, mais s'il était plus bas, il serait plus stable. Fait que ça veut dire, dans le fond, si on veut, c'est d'être plus bas puis d'être stable. Mais Dieu veut... Si je mets le banc comme ça, il est quand même plus difficile à renverser parce qu'il y en a plus grand. Il est déjà renversé. Merci. Là, tu viens de bugger mon exemple. Non, c'est pas vrai. OK, on va partir avec un skieur. Des skis, vous connaissez ça. On prend des skis, vous allez de l'avant. C'est très difficile de tomber en avant ou en arrière, n'est-ce pas? Mais c'est quand même facile de tomber de chaque côté. En tout cas, moi, ma première expérience de ski de fond quand j'étais plus jeune, c'est... Il me semble que j'étais toujours tombé sur le côté du ski. Puis... Parce que la stabilité était comme pas étendue. Pas la stabilité, mais le fondement était pas étendu. OK? Donc, on peut tomber de chaque côté. Il faut que la base soit quand même plus large. OK. Fait que comment on peut élargir la base? Parce que dans nos vies, c'est ça aussi, c'est la même chose. Ce que je vous parle ce matin, c'est qu'OK, Dieu passe en revue pour être sûr qu'on soit bien, qu'on soit correct, mais Dieu veut qu'on élargisse notre base. On va aller dans Proverbe, chapitre 11, verset 14. J'ai fait ça plus petit. Hein? J'ai écrit mes... OK, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Là, c'est ma version. Hein, c'est ça. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Fait que vous comprenez mon idée d'élargir la base. Ça dit, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Ça veut dire plus qu'il y a de personnes qui sont là, qui sont comme, je dirais, impliquées, ça fait une base plus grande. Dans notre vie, plus on étudie la parole, plus on comprend les enseignements de la parole de Dieu, plus on a des gens qui sont autour de nous autres, c'est comme on vient d'élargir notre base. Dieu veut qu'on élargisse notre base. Parce que si on reste une base très étroite, même pour ceux qui ont fait même du conditionnement physique, des choses comme ça, ils disent en partant, c'est comme élargis tes jambes, élargis tes pieds, pour que t'as une meilleure base, hein? Essayez de faire un sport, les deux pieds collés un sur l'autre, là, vous allez à un moment donné manquer de stabilité. Donc, il faut élargir notre base. Et dans ça, le salut est dans le grand nombre des conseillers. Alors, pour nous et pour l'Église, dans le fond, plus qu'il y a de gens autour de nous, plus que la base, on agrandit la base du... comme notre Église ici, vous voyez, là, c'est une pyramide. Hein, la base est très grande via la pointe qui est petite. Autrement dit, c'est pas monté droit ou vers l'extérieur, mais c'est monté vraiment vers l'intérieur. La base, c'est la partie la plus grande. Dans notre vie, est-ce que la partie la plus grande, c'est notre base? Ou c'est la partie qui est dans le milieu? Ou c'est la partie la plus haute, la celle qui paraît le plus? Notre base est où? Notre fondement de notre vie chrétienne? Est-ce qu'elle est... Autrement dit, c'est une question que je vous laisse avec, que je me pose grandement aussi. Dans le fond, utiliser une expression québécoise, on dirait que tes œufs sont tous dans le même panier ou sont-ils comme dans plusieurs paniers qui fait que ta bâtisse a l'air un peu comme ça ou la base est comme différente. Dieu veut qu'on s'établisse en lui. Il n'y a personne qui peut refaire notre base. Il n'y a personne qui peut travailler sur notre fondement. C'est à nous autres. C'est un travail personnel d'établir cette pyramide-là. Et si on veut construire en hauteur dans nos vies, si on veut laisser Dieu travailler, il faut élargir la base. On ne peut pas établir un ministère. On ne peut pas établir une église. On ne peut pas établir un travail personnel, un fondement de vie chrétienne en ayant une toute petite base. Puis si on veut construire dessus, il faut l'élargir. Il faut l'élargir. Puis je dirais, par expérience dans la vie, des fois on regarde les jeunes puis on se dit, OK, Oli est jeune, il manque d'expérience un petit peu. On pense à une personne un peu plus âgée qui a plus d'expérience. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la vie a appris des choses. Puis dans le fond, elle a agrandi sa base. Fait que donc, si elle construit dessus, elle construit sur quelque chose de solide, parce qu'elle a vécu des affaires, qu'elle a entendu des affaires, qu'elle a pris conscience d'eux, puis dans le fond, elle a travaillé ça dans sa tête. Bien, la vie chrétienne, c'est la même chose. On est dans la présence de Dieu, on est des chrétiens, on est des personnes sauvées par Dieu, des pécheurs sauvés par grâce. Puis quand Dieu nous passe en revue, il est en train de nous dire, « Hey, ta fondation, là, il y a telle affaire, il y a ça. » Quand on vient à l'église puis qu'on a des études bibliques, pourquoi est-ce qu'on a des études bibliques? Vous allez dire, « Ah, je le connais, ce verset-là, puis j'en ai eu des tonnes, puis cette histoire-là, je la connais. » Puis oui, je suis sûr que chaque fois que pasteur Jean, pas chaque fois, mais quand le pasteur Jean-Pierre enseigne, à l'occasion, il doit se dire, « Ben, je l'ai déjà partagé, ça. Je l'ai déjà partagé, ça. » Ou « Vous venez déjà parler de cette affaire-là. » Ou même quelqu'un qui vient partager, comme Noël qui est venu partager ce coup ce matin, ben, probablement qu'il y a déjà quelqu'un qui a partagé ce verset-là ce matin, ou un autre matin, ou une autre chose. Mais c'est comme il y a des choses différentes dans la vie. On a toujours quelque chose à apprendre. Toujours, toujours, toujours quelque chose à apprendre pour agrandir notre connaissance de Dieu, notre connaissance de la parole, notre connaissance des fruits de l'esprit. Ce qui fait qu'après ça, quand vous avancez stable. Vous avancez sûr parce que votre base est agrandie. Oui, notre fondement, c'est Christ. Comme je lisais tantôt dans Éphésiens 4, dans le fond, sur le corps, sur Christ. Tout est fondé sur Christ, ça fait qu'on devienne parfait puis qu'on soit établi sur Christ. Mais c'est très important. Ce matin, si vous retenez juste le fait qu'il faut agrandir votre base, ça va être déjà très bon. Parce que moi, c'est ce qui me frappe le plus, c'est que Dieu veut qu'on approfondisse par nous-mêmes sa parole. Qu'on approfondisse par nous-mêmes. Oui, pasteur Jean-Pierre nous partage des bons messages le dimanche, mais c'est à nous autres comme de le prendre, comme de le réétudier. Dans les premiers chrétiens, eux autres, quand ils étaient ensemble, ils se rassemblaient, ils étudiaient, puis après ça, ils retournaient chez eux, puis ils réétudiaient, puis ils en reparlaient. Puis ça ne veut pas dire de reprendre toute la prédication, puis de repasser 2 heures dessus, mais il y a des choses sûrement qui vous touchent, il y a des choses qui vous rejoignent. Puis un peu comme, je reviens à dimanche passé, quand Diane a prophétisé, puis qu'Emmanuel est venu, puis elle a dit, ben dans le fond, c'est comme si on s'est pas arrêté sur le fait que Dieu venait de parler, puis on n'a pas comme considéré, puis c'est vrai. Puis je pense que quand on a une étude biblique, ben est-ce qu'on considère ça, est-ce qu'on le refouille, est-ce qu'on le retravaille? Quand Dieu vous parle de quelque chose, est-ce que vous prenez le temps? On mentionne dans la parole quelqu'un qui dit la parole, il est comme, puis qui la regarde comme dans un miroir, puis ça, il s'en va, puis il ne se souvient pas de ce qu'il a fait. Je veux dire, est-ce qu'on approfondit? Puis, il n'y a personne qui, c'est ça comme je disais tantôt, il n'y a personne qui peut approfondir votre fondement. Là. Peu importe ce que quelqu'un va vouloir faire, va vouloir vous aider, c'est vous. Hein? Parce que dans la vie, si on veut juste mettre ça plus simple, dans la vie, quand vous avancez, si vous avez de l'expérience, vous allez avancer avec assurance. Mais si vous manquez d'expérience, vous allez marcher plus nerveux. Mais il n'y a personne qui peut vous apprendre ça, l'expérience. On le sait tous que l'expérience, ça vient avec l'expérience, ça vient avec avec la pratique, avec les bons, les moins bons coups. La parole de Dieu, c'est la même chose. Il n'y a personne qui peut vous apprendre un verset. Il n'y a personne qui peut vous donner la richesse d'un verset si vous ne le lisez pas. Si vous ne prenez pas le temps de l'approfondir, puis lisez un verset par jour. Autrement dit, pas en lire tant que ça, mais juste lisez quelque chose, laissez-vous rafraîchir par ce verset-là, laissez-vous parler par Dieu, puis juste, à ce moment-là, votre base va être plus grande. Je pense à des voitures de course qui vont très vite dans un circuit, puis j'ai mentionné ça à Emmanuel la semaine passée. Je pense que ça m'a travaillé tout autant. Elle m'a dit, ah, c'est bon, il faudrait que tu parles de ça. Ben, mettons que ça m'a travaillé une partie de la semaine aussi. Une auto de course, c'est rare qu'elle est très étroite, puis qu'elle est très... ils sont plus qu'ils font de la vitesse, les Formule 1, si vous les connaissez. C'est des véhicules qui sont très bas. C'est bien juste s'ils ne traînent pas le plancher, là, ils ne ramassent pas le fond. Là, t'sais. Mais ils sont larges, sont très basses, puis ils sont capables d'aller très vite. parce que dans le fond, ils sont stables, ils sont là. Ils sont, parce que s'ils étaient comme trop haut, ben ce ne serait pas bon. Ou si la distance entre les roues serait très petite, mais il n'y aurait pas de stabilité. Si l'espace entre les roues est très long, bien, il y a une meilleure stabilité. Fait que je reviens toujours à mon fondement. C'est vraiment à la base. On va aller dans le psaume 1, psaume que vous connaissez tous, que vous connaissez par cœur, je dirais. Vous connaissez l'idée, en tout cas. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » OK, on comprend tout de suite dans le contexte que notre arbre, il est près d'un plan d'eau. Et on se dit, OK, notre arbre, c'est comme notre vie, on devrait être près du plan d'eau de Dieu, on devrait, tu sais, dans le fond, on est proche de Dieu, on donne du fruit. Mais si vous pensez plus loin, notre arbre, il faut qu'il aille chercher avec ses racines dans le plan d'eau, il faut qu'il aille chercher l'eau qu'il y a là. C'est pas la rivière qui, à un moment donné, où il n'y a pas personne qui vient prendre l'eau de la rivière puis qui vient la mettre sur l'arbre, mais ton arbre qui est là, qui s'établit, qui s'enracine, pour utiliser le bon mot, et qui va aller chercher l'eau dans la rivière qui est tout près, qui est là, puis il va l'approfondir. Je reviens avec ma base. Notre arbre, si vous connaissez un peu dans la botanique, ils disent que normalement, les racines sont plus grandes que ce que vous voyez à l'extérieur. Si vous voyez un arbre qui a de l'air gros et majestueux, dites-vous que dans le sol, il y en a en masse. Il y en a en masse profonde. Vous ne seriez pas capable de le déraciner, ou en tout cas moins d'un fléau, là. Mais l'arbre est tellement bien enraciné, qu'il peut aller chercher même, peu importe le vent qui passe, les tempêtes qui passent, c'est comme il y a des minéraux encore dans le sol, il y a des choses qu'il est capable d'aller chercher. Puis il est toujours près du plan d'eau aussi. Fait que cet arbre-là donne du fruit en sa saison. C'est comme son cycle, il se passe normalement, il grandit. Il n'est pas toujours en train de donner des fruits, mais il donne en sa saison. Puis, comme on dit, le petit train va loin. L'arbre, des fois, on se dit, « Ah, il me semble qu'il n'a pas bougé. » Mais si vous mettez à la regarder plus près, vous allez voir qu'il y a une branche que vous poussez. Il y a ci, il y a ça, il y a des fruits. Mais on voit, ça va tellement lentement, mais ça va sûrement. Lentement, mais sûrement. Avec Dieu, c'est lentement, mais sûrement. Fait que ce matin, notre fondement, c'est pas, OK, à partir d'aujourd'hui, là, je lis ma parole, puis je vais devenir un chrétien solide. Et on est tous des chrétiens d'un certain âge dans le Seigneur. On a appris des choses, certaines affaires qu'on a apprises que d'autres n'ont pas apprises, et vice-versa. C'est pas une question d'en connaître plus ou moins, mais c'est de connaître les choses que Dieu veut qu'on connaisse, qu'il puisse nous autres nous nourrir, comme l'arbre près du plan d'eau. On va aller dans Matthieu, chapitre 13, verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Verset 32. On va arrêter là pour tout de suite. Dans le fond, il ne trouve pas de place pour mettre ses racines, dans Matthieu 13, verset 20-21. Parce qu'avec joie, il va pousser, il va monter, mais il n'y aura pas de racines. Il n'y aura pas de fondement. C'est comme quelqu'un qui voudrait construire, puis qui voudrait construire rapidement, mais dans le fond, qui n'a pas la base pour le faire. C'est sûr que humainement, on essaie d'être des performeurs. Je veux dire, la société nous enseigne à ça, nous enseigne d'être comme toi, t'es bon, puis tu vas monter. Puis ça déteint aussi dans l'Église. On va être des bons chrétiens, on va être pas meilleur que les autres, mais on veut quand même, tu sais, ben moi, j'en connais, puis moi, je suis capable d'enseigner ou je suis capable de partager. Puis... Mais c'est pas important. Aux yeux de Dieu, c'est pas important. Dieu, il nous voit, puis quand il nous inspecte, « Ah, t'as pas encore mis ta tuque à matin, toi! » Ah, mais ça, c'est pas grave là-dessus, c'est pas grave là-dessus que je vais. Puis là, à un moment donné, on marche, puis on a froid à la tête puis les oreilles. Moi, j'aurais peut-être dû mettre ma tuque, tu sais. Fait que ça veut dire que la tuque, on peut l'oublier même si on grandit. C'est... Mais parce que quelqu'un nous l'a enseigné, parce que quelqu'un a pris le temps, bien plus tard, on se souvient quand tu sors, tu dis, ouais, tu regardes le thermomètre, ouais, il fait pas bien chaud aujourd'hui, je vais la mettre ma tuque. On apprend. On apprend. On a élargi nos connaissances, qui fait qu'après ça, bien, on se fait moins prendre par l'adversité. Puis dans la vie, on aura toujours de l'adversité. Dieu, Jésus, il n'a pas dit de nous enlever du monde, mais je veux les préserver du mal. Il nous laisse marcher. On est là pour marcher avec Dieu. Construction. Donc, le fondement, Christ est notre fondement. On veut s'établir sur sa connaissance, sur sa parole, l'importance de l'établir. Posez-vous la question. J'aimerais ça que Daniel donne des devoirs. Moi aussi, je vais donner des devoirs, Dan. Non. Juste, posez-vous la question, votre fondement dans la parole. Comment est-ce qu'il est? Aujourd'hui, votre bâtisse spirituelle est construite sur quoi? Sur la parole de quelqu'un? Sur la connaissance d'un frère ou d'une sœur? C'est bon. Mais c'est mieux quand c'est soi. Quand tu frappes un mur, puis que c'est toi qui as décidé de faire cette expérience-là, tu es plus prêt à l'assumer parce que tu dis, tu l'as pris. Mais si quelqu'un dit, ouais, moi, à ta place, là, j'irai à tel endroit. Mettons, tu vas faire une activité, on va aller faire du canot, c'est à Rivière-Jacques-Cartier. Puis moi, ça ne me tente pas pantoute. Puis Daniel me dit, ah, tu devrais y aller, tu vas avoir du fun, ça va être plaisant, blablabla. Puis, fait que moi, je pars, puis j'y vais avec lui. Puis là, je fais du canot, puis là, ça va pas bien. Là, ça va pas bien, mais le canot sur le bord de virer à l'envers, puis là, je commence à avoir froid, puis là, qu'est-ce que je vais me dire? Ah, j'ai pris une mauvaise décision, ou je vais me dire, ouais, Daniel Bourgoin, la prochaine fois qu'il va me suggérer de quoi, je l'écouterai pas. Ça va me donner... Si c'est Daniel qui me l'a suggéré, ça va me donner plus envie de débarquer au prochain place que je suis capable de débarquer avec le canot. Mais si moi, j'ai décidé que j'allais embarquer en canot, ben, je vais me dire, je vais continuer un petit peu plus loin peut-être avec le canot. Tout d'un coup, que ce serait mieux, tout d'un coup, tu sais, parce que j'assume ce que j'ai décidé par moi-même. Vous comprenez l'idée de ce qu'on sait, ce qu'on connaît, ce qu'on approfondit de la parole de Dieu, ça fait qu'on marche. Puis pas qu'on n'a pas besoin des frères et sœurs, mais je veux dire, on avance quand même, nous autres, avec Dieu. Puis oui, on a des frères et des sœurs qui sont là, qui nous encouragent à avancer, à marcher, mais c'est toujours nous autres qui fait le pas, qui fait la chose. Dieu nous aide, Dieu marche devant nous, Dieu place les choses, mais lui, on peut se confier dans ce qu'il nous dit. Quand il nous dit d'avancer, on avance, parce que notre foi est basée en lui. Mais même encore là, quand on se frappe à lui, on se dit, « Dieu, c'est quoi que tu m'as dit de faire? » Comprenez-vous? Mais si vous vous dites, « OK, Seigneur, j'ai la foi, je sais que tu m'as dit de faire ça, et je vais le faire, puis c'est comme, je m'implique, là, je suis concerné, puis je le fais, mais après ça, je vais me dire, OK, quand même, là, Dieu me l'a dit, puis je crois dans sa parole, puis j'ai la foi, donc je vais continuer, même si je n'arrache un peu, parce que je sais que Dieu est vrai, que Dieu est bon, parce que j'ai expérimenté sa parole, j'ai expérimenté ses choses, puis quand on expérimente quelque chose, ben la deuxième fois, c'est on a toujours, c'est comme on est sur la foi de la première fois, si on peut dire comme ça. Quand vous êtes rendu à la deuxième marche, ben c'est parce que vous avez été capable de monter la première marche, vous êtes capable de vous rendre à la deuxième. Si vous êtes monté à la deuxième, vous êtes capable d'aller à la troisième. Il y a comme de quoi qui s'établit le fondement de la parole. Alors, on construit sur ce fondement-là. Important, mais de toujours être en contact avec le fondement. Vous allez voir ce que je veux m'en venir. J'aime bien regarder la nature. Je vous donne des exemples, là, c'est parce que pour moi, dans ma tête, c'est plus facile de comprendre des affaires. Fait que j'écoutais une émission l'autre jour sur les avalanches. Vous connaissez ça, une avalanche? Le principe d'une avalanche, une belle couche de neige qui, à un moment donné, se détache, puis qui descend, puis qui ramasse tout sur son passage. Pourquoi cette couche de neige-là, à un moment donné, se détache? Parce qu'il y a quelque part entre les deux, entre la couche d'avant et la couche d'après, qui n'est pas fixée solide. Qui est Autrement dit, par le type de neige qui est là, par la détérioration du soleil, de différentes choses, à un moment donné, elle vient qu'elle est plus stable. Plutôt qu'elle est amincie, mais aussi elle est plus stable. Autrement dit, elle n'est plus comme pactée les uns les autres comme de la neige le ferait normalement. Il y a comme de quoi qui est plus lousse. Fait qu'à la moindre bruit ou de choses comme ça, la neige va se mettre à descendre, puis là, elle va partir. Moi, je regardais ça et je me disais, OK, Seigneur, on construit des fondements, on construit des choses, puis là, l'épreuve arrive. Mais qu'est-ce qui fait que les couches tiennent ensemble? C'est parce qu'il y a toujours un contact avec la couche d'en dessous. Il y a toujours. OK, moi, j'ai construit ma vie chrétienne sur la base qui est Dieu, mais là, après ça, le reste, je m'en fous. Je continue, je construis, je fais ça comme je veux, je fais ça comme ça me tente. Puis il n'y a comme pas de lien entre les deux. Il y a comme de quoi qui coupe, qui est coupé entre les deux. Qu'est-ce que ça risque? Ça risque une avalanche. Qu'est-ce qui cause l'avalanche? Différentes raisons. Des fois, on ne comprend pas pourquoi est-ce que dans la vie de quelqu'un, tu dis, il vient de prendre une débarque, c'est comme, pff, tout vient de prendre le bord. Comment quelqu'un qui a son fondement en Dieu peut tout d'un coup, mais c'est comme que tout débarque, tu dis, me semble que c'était quelqu'un qui aimait le Seigneur, me semble que c'est quelqu'un qui... Mais est-ce qu'il était toujours comme rattaché à la base, rattaché à son fondement, ou c'était juste comme autre chose qu'il tenait là? Ah, le succès, quelqu'un qui va bien. Des fois, on a entendu parler, en tout cas, des histoires de prédicateurs et de grands hommes de Dieu qui, à un moment donné, pour une raison quelconque, ont disparu du décor. Puis tu te dis, pourquoi ces gens-là qui ont prêché devant des foules, dans les milliers, ils ont vu des choses passer? C'est qu'à un moment donné, ils ont perdu le contact avec la base. Puis à un moment donné, il est arrivé des choses dans leur vie. Ça a comme déconnecté parce que la prise n'était pas là. La prise n'était pas là. Puis ça, je dirais que, je ne veux pas vous faire peur, c'est un danger qui nous guette, mais ce n'est pas un danger tant que ça. Je ne veux pas être alarmiste non plus, parce que on veut s'accrocher à Dieu, puis tant que notre cœur veut s'accrocher à Dieu, la couche ne se détache pas. Je ne veux pas que vous soyez là en train de vous dire, « OK, là, je fais-tu des choses qui vont faire que ma couche va se détacher, puis que, tu sais, qu'il y a un risque, puis tout. » Non, 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 je ne veux pas que vous soyez paranoïaque ce matin, là. Je veux juste que vous compreniez, si vous prenez la peine de vous poser la question sur votre fondement, où est-ce que vous êtes établi en Christ, puis que vous dites, ben moi, mon cœur, il cherche Dieu. Mon cœur veut en connaître la part de Dieu. Ben, c'est correct. Autrement dit, posez-vous pas plus de questions que ça, là. Je veux dire, cherchez pas des des poux où est-ce qu'il n'y en a pas. Cherchez pas des affaires où est-ce qu'il n'y en a pas. Mais juste, soyez sûr du fondement que vous avez. Étudiez votre cœur, regardez votre cœur, laissez Dieu observer votre cœur, laissez Dieu passer en revue votre cœur, votre vie, parce qu'il veut le meilleur. Il ne veut pas qu'il y ait de couches comme ça entre les deux. Il ne veut pas qu'il y ait de choses bizarres entre les deux qui puissent se placer entre deux couches. Il ne veut pas. Il veut toujours qu'on soit attaché à lui, qu'on soit attaché au cep. Comme les branches sont attachées au tronc, on est toujours attaché au tronc. Je lisais le passage sur les fruits d'un arbre qui, dans le fond, je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Je pense que oui, j'avais sorti le verset. Jean 15, 5. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Moi, je vais vous dire, je vais paraphraser ça. Si vous portez du fruit, c'est parce que vous êtes accroché après la branche. Dans le fond, là, je veux dire, si vous voulez observer, on se dit que, dans le fond, la branche qui est prête après l'arbre, elle donne du fruit. Ben moi, je prends la conclusion à l'envers. Si tu donnes du fruit, c'est parce que la logique veut qu'on est attaché à l'arbre. Fait que si vous regardez vos vies, puis vous vous dites, Seigneur, moi j'ai du fruit dans ma vie. Je parle pas d'un gros fruit, je parle pas d'un petit fruit, on parle de fruit. La Bible parle de beaucoup de fruits. Si on parle d'un arbre en santé, un arbre qui est près d'un courant d'eau, mais la logique veut, la nature veut que s'il y a des fruits sur un arbre, c'est parce que la branche est... Même des fois, on regarde des branches. En tout cas, moi, je regarde chez nous, j'avais un lilas, puis j'avais une branche qui était comme un peu brisée par rapport au tronc, mais il y avait des fleurs encore au bout. Fait que je me disais, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui passe là encore. Il en passe moins, mais il en passe pareil. Fait que si vous regardez vos vies, vous laissez Dieu observer vos vies, il y a du fruit. Autrement dit, posez-vous pas plus de questions là. Comprenez l'important, juste c'est Dieu. C'est on veut être des bons chrétiens, on veut que ce soit bien, on veut être que Dieu soit fier de nous, Mais si cette recherche-là fait qu'à un moment donné, on ne s'occupe pas de Dieu, on ne s'occupe pas de notre base avec Dieu, on ne s'occupe pas de notre connaissance, de notre richesse, de notre approfondissement avec Dieu, on vient de tomber à côté. C'est comme de chercher la personne qui donne des cadeaux plutôt que la personne. C'est comme chercher des cadeaux plutôt que la personne qui donne les cadeaux. Je veux dire, Dieu donne des dons, Dieu donne le Saint-Esprit, mais c'est toujours Dieu qui est important. Autrement dit, je ne dis pas que je ne veux pas avoir ces cadeaux, au contraire, je les veux, mais ce que je veux, c'est Dieu. Autrement dit, si l'enfant qui passe, si un matin, il fait moins froid puis qu'il s'habille comme un ours, la mère va dire, hey, t'es peut-être trop habillé un matin, tu pourrais l'enlever puis ça va faire pareil. Mais la différence, ce n'est pas ce que l'enfant va porter. La différence, c'est la personne qui prend la peine de passer la revue sur l'enfant, qui prend la peine de l'observer, qui prend la peine de le regarder. Fait qu'il faut revenir à la base qui est Dieu. Et tout ce que je vous dis ce matin, vous avez déjà entendu ça, vous savez ce que je veux dire, mais je veux que vous compreniez ça, que c'est la base. Il faut toujours revenir à la base, il faut toujours être connecté, il faut toujours qu'elle soit prise après. L'important, c'est Dieu. L'important, c'est sa parole, sa connaissance. Puis, j'avais une petite, pas une petite anecdote, mais en tout cas, je pensais à construction. À un moment donné, je me disais, est-ce que vous vous posez des questions quand vous voyez des fenêtres sur une maison? Non. En tout cas, d'après moi, il n'y a pas grand monde qui se pose des questions si vous voyez une fenêtre sur une maison. Quand vous voyez un frère ou une sœur qui a quelque chose dans sa vie qui est construit d'une telle ou d'une telle façon, ce n'est pas à nous autres à voir comment on construit la maison d'un autre. Les maisons, il y en a des différentes. Puis, les maisons, ils ont toutes des fenêtres, mais les fenêtres sont différentes. Des fenêtres à guillotine, des fenêtres qui ouvrent avec un petit manivelle, puis tout. Mais si nous autres, on a un type de fenêtre, puis on se dit, les autres fenêtres, c'est pas bon. Le principe d'une fenêtre, c'est que tu peux voir dehors, c'est que tu es capable de l'ouvrir, puis vous comprenez, c'est très imagé, là. Mais comment est-ce qu'on construit dans nos vies, par-dessus? Je vais être plate, je vais dire, c'est pas l'affaire des autres. C'est toujours nous autres avec Dieu. Mais oui, on doit être attentifs les uns aux autres, puis s'aider, puis s'encourager. Puis on peut être l'instrument dans les mains de Dieu pour se conduire, pour s'aider. Mais l'important, c'est nous autres avec Dieu. C'est notre fondement. Puis si vous voyez une fenêtre qui est différente d'une maison d'un frère ou d'une sœur, essayez donc comme de l'encourager, si on peut dire que c'est un talent, si on peut dire que c'est la façon qu'il travaille, là. Essayez de voir le côté, de laquelle façon Dieu la voit. Quand Dieu regarde cette maison-là, cette construction-là, il voit un bon fondement, il voit quelqu'un qui le connaît, qui l'aime, puis comment il construit dessus, bien, encouragez-les, allez le voir, encouragez-le ou la sœur, le frère ou la sœur, pour continuer de construire. Mais la parole nous enseigne de s'exhorter les uns les autres à toujours être sur le fondement, sur la parole qui est Christ, toujours revenir ensemble, toujours d'être là, puis d'élargir notre fondement. Fait que si dans l'Église, en conclusion, si dans l'Église, on est tous impliqués à notre façon, c'est comme on vient d'élargir la base du CPERS. Le CPERS n'est pas construit sur pasteur Jean-Pierre et sur Sylvie, parce que ça fait une pyramide qui est à l'envers. Mais plus qu'on est de gens qui aiment l'Église, qui veulent servir Dieu, qui travaille dans le corps de Christ ici, mais c'est comme on élargit. Je trouve ça super le fun de faire des films qu'il y a le vendredi. J'ai oublié, j'étais chez nous, je sais pas. Mais je trouve ça super le fun, puis différents ministères, j'entendais notre frère, notre soeur ce matin aussi. Mais juste ces choses-là, on s'implique, on élargit la base, mais on n'oublie pas que cette base-là est sur Christ. Mais on est tous là ensemble pour l'élargir, pour l'établir. Pensez dans votre vie, pensez famille, pensez à toujours base. Toujours base, l'élargir, l'approfondir, puis ce que vous allez construire dessus, ça va toujours être bon, ça va toujours être solide. Puis si ça se tient toujours, tu sais, des fois on parle de des familles qui ont X générations, puis ils ont même des armoiries, comme un dessin avec différentes choses écrites dessus. Puis nous autres, notre famille, c'est fierté, loyauté, fidélité. Mais nous autres, on a des armoiries qui représentent notre famille, qui représentent la famille de Christ, les fondements, ce qui est la parole. On a une armoirie, puis on est toujours fiers, puis on est fiers de représenter cette armoirie-là qui est l'armoirie de Dieu. Puis il ne faut jamais l'oublier. Hein, quelqu'un qui, dans sa famille, si sa, son armoirie, c'était la loyauté, puis à un moment donné, il a envie de faire de quoi de croche, il se dit, ouais, la réputation de ma famille, c'est de la royauté, c'est de la fidélité, c'est de la loyauté. Ben, ouais, je vais être plus porté à être loyal parce qu'il n'oublie pas le fondement. Alors, ce matin, je vous recommande, dans ce que moi, en tout cas, j'ai fouillé en fouillant dans la parole, vous le savez, mais le fondement de la parole, le fondement de Christ. Prenez le temps de lire la parole, prenez le temps de prendre un verset puis juste l'approfondir. Là. Mettez-vous pas à lire 10 chapitres par jour puis dire « Ah, c'est bien trop compliqué, là, je suis pas capable », puis faire ça une semaine, puis après ça, ça tombe à rien. Mais juste, tranquillement, juste, « Seigneur, passe-moi en revue. Seigneur, tu sais, examine-moi. Montre-moi, Seigneur, tu sais, montre-moi ce qu'on peut travailler ensemble, ce que tu peux faire, ce qui devrait être changé, ou ce que j'ai oublié de mettre ma tuque, ou est-ce que j'en mets trop parce que c'est pas le bon climat. » Puis comprenez-le dans le sens que ce Dieu-là, notre Dieu, il nous aime. Il nous aime. Puis si des fois, vous avez l'impression que des fois que ça passe un peu plus serré, n'oubliez pas, Dieu, il nous aime. Il ne veut pas que vous mettiez votre tuque parce qu'il a envie que vous ayez chaud ce jour-là. Mais si vous faites mettre une tuque, c'est parce qu'il va faire froid ce jour-là, puis ce serait une fichue de bonne idée de l'avoir. Amen. Gloire à Dieu. Je pense qu'on se lève.